basse à Bicêtre. Cette fresque-là occupe un mur entier de la salle des pas perdus. Il arrive qu'on la regarde longtemps. Le geste de Pinel est plus, en effet, qu'un geste d'humanité. À l'Académie, chaque acteur joue son propre rôle. Les feux de la scène sont les derniers. On croirait parfois que les personnages vivants s'apprêtent à gagner les tableaux qui les proposeront à l'admiration des générations futures. Augustin Pierre aimait cet endroit où la comédie s'achève comme elle a commencé. La séance du mardi semblait placée sous les auspices d'Empédocle, du rôle de l'eau dans la nutrition, de l'action de l'air sur les plaies. Mais c'était bien pour Alcossé que tous ces gens se pressaient dans l'escalier au buste et sous le tableau dédié à la gloire de Pinel. En ce temps-là, les communications académiques comme aussi les cours au Collège de France rassemblaient la cour et la ville. Les dames, accompagnées souvent, se pressaient au cours où M. Bergson remontait aux sources de la morale et de la religion. La faculté et l'académie de médecine étaient également très prisées, moins sans doute par goût pour les sciences que par souvenir de l'heureux 18e siècle où l'on s'amusait de tout, cornues, machines chirurgicales, bains de mesmer, expériences bizarres, et par un trouble intérêt pour les corps. Ce jour-là, le public se préparait à entendre le professeur Alcossé, dont on disait tant de bien et tant de mal, traité de la paralysie générale d'origine syphilitique. Une demi-heure avant l'ouverture de la séance, le frisson du plaisir et de la curiosité parcourait déjà la foule semée d'aigrettes et constellée de barbes blanches. Un fort brouhaha montait de cette masse fluide de draps, de satin et de poils qui glissait dans l'espace en remplissant tous les vides. On distinguait parfois un profil triste, une parole intelligible, puis tout disparaissait dans le flot renouvelé. Quelques dames invitaient à la ronde, et eût-on pu croire, au hasard, mais au fait il n'en était rien. Une ou deux décennies de pratiques parisiennes, ajoutées pour certaines à l'éducation reçue, avaient développé et durci les antennes qui leur servaient à choisir. Les critères de ces choix étaient différents, non la méthode et ses différences patiemment élaborées, faisaient de chacune une petite artiste de la vie sociale, dont la touche ne ressemblait à aucune autre. Dans un coin, appuyés au buste de Lepage, deux internes de Sainte-Anne promenaient sur cette foule brillante un regard circonspect. Les sillages des parfums se croisaient comme ceux des bateaux. Passant devant la loge du concierge au bas de l'escalier, Alcossé, qui venait à l'académie tous les mardis depuis 15 ans, jeta d'un air froid. « Je suis le professeur Alcossé » à l'homme qui le connaissait parfaitement, comme si, à force de ne reconnaître personne, il avait cessé d'être familier avec lui-même. Parvenu sur l'estrade, debout derrière le pupitre de bois blanc, il considéra l'assistance qui se pressait pour prendre place aux loges et dans le parterre. On eût dit un petit théâtre rococo, les puissants en bas, des femmes au balcon, leurs compagnons appuyés aux colonnes, tous scrutant la foule, se désignant les sommités. Quelques habits violets de l'Académie des sciences ennoblissaient le décor. On négligeait les médecins militaires. De petites cours éphémères se formaient autour des uns et des autres, et quelques vieillards oubliés attendaient qu'on leur manifeste les derniers signes de considération dont ils pourraient jouir. Derrière les grillages bas des étages supérieurs, collés presque au plafond peint, les internes faisaient un bruit d'enfer et les parents pauvres, sagement assis, les mains sur les genoux, osaient à peine bouger. Augustin se précipita sous la voûte, échappant aux premières gouttes de pluie. En entendant le tonnerre, Alcossé qui arrangeait les feuillets numérotés de son discours se souvint des jours anciens de Sagoua-la-Grande, quand sa maison, isolée du reste du monde par les rideaux épais d'une pluie chaude et grasse, lui semblait un navire à l'ancre dans la baie que la mousson recouvre, et la côte disparaît pour longtemps au regard. Enfin le silence se fit. Communication de M. Le professeur Alcossé sur la paralysie générale, annonça gravement le président. Sagoua-la-Grande, le port et les maisons de bois, les pétrels damiers de la haute mer et les pistes en pierre plate que les Espagnols lançaient dans la jungle, et dans la jungle, des animaux inconnus. Il n'était pas un enfant peureux pourtant. Dieu sait quel monstre. Là derrière, quand toute la maison craque et que les lumières s'éteignent de manière inexpliquée. Monsieur le professeur, il aimait l'odeur des cigares de son père, dispersée dans des coupes un peu partout. Pour qu'ils soient bons, il fallait paraît-il qu'on puisse les presser au point que le pouce et l'index se rejoignent à travers la feuille et le tabac. Une vision obscène le fit sourire. Il regarda les dames, leur peau blanche, leurs chignons dominateurs et les carapaces de taffetas pincées à la taille qui leur faisaient des culs énormes, presque tragiques. Sagoua la grande, la croix du Christ dansant entre les seins brunis où perlent des gouttes de sueur, monsieur le professeur. Quelques regards étonnés sont lancés vers l'estrade où le professeur se tient, sans rien voir dirait-on, les yeux comme morts. J'y arriverai, pense-t-il. Augustin là-bas, près de la petite porte latérale, remarque son air des mauvais jours, avec en plus quelque chose de triste, d'indéfini. C'est comme un arrière-goût de malheur. Peut-être, plus simplement, la pluie qui désormais bat les vitres plombées au fond de l'amphithéâtre. Mesdames, Monsieur le Président, Monsieur le Perpétuel, mes chers collègues, messieurs, je veux tenter devant vous un essai de description exhaustive de la paralysie générale, dite aussi démence paralytique. Un frisson parcourt la salle. Les internes du poulailler ont ouvert leur calepin et, appuyés à la rambarde, se préparent à écrire. Les pages blanches couvrent la rambarde, lui donnant un air de fête. Je me suis souvent interrogée pour savoir quel sens attribuer à la parole apparemment profonde de notre collègue Charcot, les catégories n'empêchent pas d'exister. S'agit-il de montrer la distance qui sépare nos pauvres classements des réalités de la folie, ou de suggérer qu'aucune des formes que la clinique permet d'observer n'est au fond si grave, puisque la vie elle-même des fous n'est jamais sérieusement menacée, au premier cas M. Charcot nous dispense un conseil de prudence, fort utile à qui veut soigner ses malheureux. Au second, il nous indique que la folie n'est pas la mort, je me garderai bien de le suivre sûr.